de santé 88.4.
Bonjour à tous et bienvenue pour la seconde partie de l'émission consacrée au tabac. Si vous avez raté la première partie, ne paniquez pas, elle est toujours disponible en podcast sur radiocampusrennes.fr. Mais revenons à notre sujet. Le tabac, et plus particulièrement un objet devenu en l'espace de quelques années incontournable. Je veux bien sûr parler de la cigarette électronique. Les points de vente se multiplient et le nombre de vapoteurs augmente de jour en jour. Mais au final, sait-on vraiment ce qu'il y a dans ces e-cigarettes ? Dans un premier temps, j'ai interrogé un vendeur de cigarettes électroniques rennais, à commencer par lui demander la composition d'une cigarette électronique.
La cigarette électronique, elle se compose d'une batterie. À l'intérieur, c'est du lithium. Donc, comme dans nos portables, c'est rechargeable. La partie supérieure, qu'on appelle cliromiseur ou cartomiseur ou atomiseur, suivant les modèles, se compose en fait d'un réservoir dans lequel on va pouvoir contenir du liquide. Et dans ce réservoir, il va y avoir une résistance, donc qui va vaporiser le liquide. Voilà, et qui est alimentée par la batterie.
Justement, le produit en lui-même, on va dire, c'est surtout le liquide. Qu'y a-t-il dans ce liquide ?
Alors, dans ce liquide, on retrouve de l'eau, de l'alcool pour stabiliser la solution. On va retrouver du propylène glycol, de la glycérine végétale. Le propylène glycol étant là comme exhausteur de saveur, en fait. La glycérine végétale étant là pour faire le nuage de vapeur, qui est quand même ce que le fumeur recherche, de faire un nuage. Il va y avoir des arômes aux normes FDA, donc normes alimentaires, et de la nicotine aux normes USP, donc normes pharmaceutiques.
Il existe plusieurs doses, on va dire, de nicotine. Pouvez-vous un peu expliquer les différentes doses, à quoi elles correspondent, et peut-être comparer avec des cigarettes plus classiques ?
Alors, il existe différentes doses. Déjà, les constructeurs de liquide proposent des dosages différents d'un constructeur à l'autre. Majoritairement, on va dire que c'est souvent 0, donc sans nicotine, 6 mg qui correspond à un dosage de light, 12 mg qui correspond plutôt à une blonde, qui même est légèrement supérieure au dosage d'une blonde, et le 18 mg qui est à déconseiller totalement. Certains fumeurs peuvent en avoir besoin car il y a une grosse addiction, mais il est à déconseiller parce qu'en fait, aucune blonde, aucune cigarette, même roulée, ne dépasse 12 mg de nicotine.
Comment la consommation se passe, on va dire, pour un fumeur ? Est-ce qu'il fume ça comme des cigarettes ou ça va être une habitude différente ?
Et effectivement, c'est totalement différent que de fumer. Une cigarette, c'est limité dans le temps, c'est 5 minutes, 10 minutes, même 3 minutes pour les plus pressés d'entre eux, car je ne fume plus. Et donc, en fait, cette cigarette, une fois qu'elle est fumée, elle est écrasée, on passe à autre chose. La cigarette classique, pour parler d'elle, la nicotine arrive très rapidement sur les récepteurs. Donc en fait, en 10 secondes à peu près, sur la première taf, on a un pic de nicotine qui va procurer effectivement la sensation de plaisir de la cigarette classique. La cigarette électronique, c'est totalement différent. C'est pas défini dans le temps, on va dire. Ça dure pas 5 minutes, 10 minutes. La nicotine n'agit pas de la même manière non plus, elle n'arrive pas en 10 secondes, c'est plutôt sur le mode de diffusion d'un patch. Ça va mettre une minute à peu près à monter au cerveau, après quelques lattes. Le mode d'utilisation déjà est différent parce qu'effectivement, on ne va pas griller sa cigarette et la jeter. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'on tire 2-3 lattes, on la pose, un quart d'heure après, on reprend 2-3 lattes. Des fois, on l'a dans la main, simplement le fait de l'avoir dans la main, en fait, va suffire à se passer de certaines cigarettes, un petit peu comme un gris-gris. Voilà, donc ce que j'ai à dire sur le mode d'utilisation qui est vraiment totalement différent. La sensation aussi de satiété, que j'appelle de satiété parce que c'est très ressemblant, mais cette sensation-là est vraiment différente d'une cigarette classique à une cigarette électronique. Mais pour ça, les mots ne suffisent pas, il faut que les fumeurs testent.
Pour parler du cadre, on va dire, législatif autour de la cigarette électronique, qu'en est-il aujourd'hui ?
À l'heure actuelle, il n'y a pas de législation, pour ainsi dire, effectivement. La seule législation, enfin, il y a quand même une législation sur, par exemple, l'homologation des flacons de e-liquide, donc ils doivent présenter certains items sur par exemple le capuchon, il faut qu'il y ait du relief, un triangle en relief, un pictogramme pour les aveugles par exemple. Le flacon, il faut qu'il soit inviolable, donc il y ait une bague d'inviolabilité. Maintenant, la restriction, c'est de ne pas dépasser 20 mg, mais qui est déjà énorme. Comme je disais tout à l'heure, en fait, 20 mg au-dessus, c'est aux normes, enfin, c'est aux pharmaciens de délivrer, par exemple, un patch 24 mg. Au-dessus de 20 mg, voilà, c'est en pharmacie qu'on va trouver ce dosage-là. Du reste, non. Il n'y a pas de législation. Il faudrait que ce soit encadré, effectivement. On le demande, hein. Nous, vendeurs de cigarettes électroniques, on demande aussi une législation qui ne bride pas l'utilisation de la cigarette électronique, évidemment, mais qui permette d'avoir un cadre, effectivement, légal, défini, que chacun doit respecter et suivre, effectivement.
La cigarette électronique est suffisante pour un fumeur pour qu'il puisse arrêter de fumer ?
Bien sûr. Parce que le fumeur, lui, ce qu'il recherche, c'est pas le goudron, c'est pas l'ammoniaque, c'est pas le monoxyde de carbone. Ce qu'il recherche, le fumeur, c'est la nicotine. Et la nicotine, dans une cigarette électronique, elle est délivrée. Voilà.
Mais il faut pas non plus prendre ça comme un remède miracle.
Non. C'est pas pour autant le truc miracle. Évidemment qu'il faut de la motivation, c'est comme tout. C'est comme, effectivement, donc on a la gestuelle qui revient, qui par rapport à un patch, effectivement, ça, c'est différent. Pareil pour la gomme à mâcher nicotinée, c'est vraiment différent. On a la gestuelle. Maintenant, principe de vie, sans motivation, on ne fait rien. Donc voilà, il faut être motivé à arrêter pour que ça marche. Mais effectivement, on a de forts taux de réussite sur l'arrêt du tabac avec la cigarette électronique.
Si la composition des liquides est connue, de quoi est composée la vapeur ? Des études ont été menées, mais les conclusions diffèrent. Une étude réalisée par 60 millions de consommateurs et une autre par le Dr Gonevitz montre la présence dans la fumée d'acroléine, un irritant, et de formaldéhyde, produit de la combustion du carbone et cancérogène certain. Mais il s'avère qu'ils sont présents à beaucoup plus faible dose que dans la fumée de cigarette. Toutefois, de nouvelles études devraient voir le jour à ce sujet pour y voir un peu plus clair. Le docteur de Bournonville, médecin tabacologue au CHU de Rennes, côtoie des patients qui utilisent ces cigarettes électroniques. Elle nous donne son avis sur cet outil de sevrage tabagique.
Je suis obligée d'avoir un sentiment là-dessus parce qu'actuellement, l'écrasante majorité des patients qui viennent en tabacologie ont aussi une cigarette électronique. Soit ils l'utilisent, soit ils l'ont utilisée. Mais il y a, enfin voilà, c'est presque tous mes patients ont une cigarette électronique, sauf ceux qui ont décidé qu'ils n'en voulaient pas. Voilà, sinon les autres, ils en ont une. Qu'est-ce que ça pourrait avoir comme avantage, la cigarette électronique ? Bien sûr, un avantage de proximité avec le produit tabac. Proximité pourquoi ? Parce qu'il y a une gestuelle qui ressemble, mais mais pas tout à fait. C'est pour ça que on s'intéresse beaucoup à ce produit. C'est-à-dire qu'au départ, les cigarettes électroniques qui sortaient, c'était des cigarettes qui ressemblaient beaucoup à une vraie cigarette, on avait avec même les mêmes couleurs et tout, une espèce de pseudo-filtre, etc. Et plus ça va, plus c'est pas ça qui sort, c'est des cigarettes qui ressemblent à des stylos un peu. Donc avec pas la même gestuelle, parce que c'est lourd, donc on peut pas la tenir entre deux doigts, on la tient dans la main, etc. Mais enfin, c'est quand même proche, ça fait la petite fumée. Ça, la petite fumée, c'est exprès, hein, c'est fabriqué comme ça, mais plus ça va, plus on va avoir des cigarettes électroniques qui font pas de fumée. La fumée, c'est pas indispensable dans la cigarette électronique. Par contre, ce qu'il y a dedans, c'est de la nicotine. Voilà. Et ça, ça va pas bouger. Ça... Autant le fait de pouvoir faire de la fumée, de ressembler avec une cigarette, visiblement, ça semble pas indispensable. Et le fait de faire des cigarettes qui ont plus de fumée et qui ressemblent plus à des cigarettes, ça empêche pas qu'elles se vendent bien. Par contre, il faut de la nicotine, et majoritairement ce qui est acheté par les vapoteurs, c'est des cigarettes avec nicotine. Voilà. Donc les avantages, c'est ça, c'est que ça va procurer aux fumeurs une partie de ce qu'ils recherchent dans la cigarette, dans ces cigarettes habituelles. L'autre avantage, c'est bien entendu qu'on arrive sur une réduction de toxicité très importante, même malgré toutes les polémiques et les articles qui sortent, même les articles un peu critiques avec des réserves reconnaissent tous que il faut pas interdire la cigarette électronique, et que même si on peut trouver des traces de substances potentiellement toxiques dedans, on est dans un rapport de 1 à 100, voire 1 à 1000 avec les cigarettes habituelles. Donc on est forcément au moins dans une réduction du risque. On ne sait pas si on est dans le risque zéro, mais on est dans le risque très, très, très réduit. Donc ça, c'est un autre avantage possible. L'autre avantage pour les fumeurs aussi, semble-t-il, c'est un avantage de coût. Il semble que ça soit un budget beaucoup moins important que le budget clope, en particulier si vous achetez pas des roulés, mais des cigarettes toutes faites. Qu'est-ce que ça pourrait avoir comme inconvénient ? Quand on entend tout ça, on dit rien. Si, il faut quand même se les payer. peut-être, on verra, mais qu'il y aura des dépendances à la cigarette électronique. Si c'est une dépendance à une substance non nocive, ben après tout, on est tous dépendants de l'oxygène qu'on respire. Donc voilà, ça, après on va être sur des questions limite philosophiques, quoi. Moi, ce que je constate chez les gens qui accrochent bien avec la cigarette électronique, c'est quand même un côté un peu dérégulation par rapport à la cigarette. C'est-à-dire que quand ils étaient fumeurs, il y avait des endroits où ils ne pouvaient pas fumer. Donc, ils ne fumaient pas chez eux, par exemple, parce qu'il y avait des gosses, parce que ceci. Ils ne fumaient plus dans les lieux publics, ils ne fumaient plus, voilà. Et puis, je vois quand même certains de mes patients qui sont accro, mais quand je dis accro, c'est accroché, c'est-à-dire que la cigarette électronique, ils ont dans la main tout le temps, même quand ils vapotent pas. C'est pas interdit de vapoter dans les lieux publics. Il n'y a pas de raison objective de conseiller aux gens de ne pas vapoter devant leur enfant, sauf une question d'image, parce que voilà, c'est l'image de papa-maman en train de prendre une drogue, hein, quand même. Donc voilà, il y a plus une question éducative, on va dire, mais après tout, à table, on voit papa et maman en train de boire un verre de vin. Donc on est plus dans des questions de culturel, voilà. On ne voit pas énormément d'inconvénients à la cigarette électronique, en fait. Voilà. Donc, nous, on la regarde avec beaucoup d'intérêt. Ça n'est pas un traitement validé du sevrage pour l'instant. Mon attitude en consultation, c'est de ne pas décourager les gens de l'utiliser. Par contre, d'échanger beaucoup, beaucoup avec eux sur la manière dont ils l'utilisent. C'est-à-dire que moi, je suis centrée sur l'objectif pour lequel les gens viennent me voir. Ils viennent me voir pour arrêter de fumer. Ils ne viennent pas me voir pour savoir comment utiliser leur cigarette électronique. Ils savent faire ça tout seul mieux que moi. Donc, on va aborder ensemble comment cet outil-là intéressant, ils le mettent au service de leur objectif qui est d'arrêter de fumer. Voilà.
Je voulais te poser d'autres questions, plus sur l'aspect socio-économique de la cigarette. Pensez-vous que l'augmentation progressive des prix de la cigarette a un impact sur le nombre de fumeurs ?
A priori, c'est à peu près la seule mesure qui a fait la preuve de son efficacité, mais il ne faut pas que l'augmentation soit progressive gentiment. Il faut qu'elle soit progressive brutalement. Par contre, ce qu'on vise dans ces cas-là, c'est que les gens changent, c'est-à-dire disent « c'est pas possible, je ne peux plus fumer ». Mais le risque, c'est que dans ces cas-là, vous vous mettez un certain nombre de gens devant une situation de choix impossible. C'est-à-dire que soit tu continues à fumer et ça ne va pas le faire parce que ton budget il va être explosé. Moi, j'ai calculé que pour certains patients, on arrive à la moitié du RMI, enfin du RSA, qui part en clope. Donc, c'est pas possible. Mais si tu arrêtes de fumer, ça va être un enfer aussi parce qu'ils sont très dépendants, parce que la cigarette, pour certains, c'est à peu près le seul lien social avec les autres d'aller chercher les clopes au bureau de tabac, parce que c'est des personnes très isolées, parce que c'est le seul plaisir qu'il reste, parce que c'est la convivialité, parce que c'est un symbole factice, c'est sûr, mais de liberté, parce que la cigarette, c'est la seule drogue qu'ils ont trouvée pour garder la tête haute, parce que sinon, c'est des drogues extrêmement déstructurantes et destructrices pour le psychisme, alors que finalement, la cigarette ne l'est pas tellement. Donc, une mesure d'augmentation des prix, c'est très bien, à condition qu'elle soit accompagnée de mesures d'encouragement et des vraies mesures d'encouragement au sevrage, c'est-à-dire de faciliter vraiment l'accès au sevrage des personnes qui sont le plus en difficulté. Qu'est-ce qui va être en difficulté pour arrêter de fumer ? C'est soit les personnes qui ont d'autres addictions associées, soit les personnes qui sont malades du tabac, c'est-à-dire qu'ils ont la pression. Et paradoxalement, plus vous avez la pression pour arrêter de fumer, et plus c'est difficile parce que c'est plus une motivation personnelle. Et c'est la motivation personnelle qui est la plus productive pour arrêter de fumer. Soit des personnes qui ont des problèmes psychologiques, de dépression ou d'autres maladies psychiatriques et pour qui c'est plus compliqué d'arrêter de fumer. Ou des personnes qui ont des situations de vie difficiles, qui vivent dans un environnement qui incite à fumer, soit parce qu'il n'y a que des fumeurs autour, soit parce qu'il y a du stress, du chômage, des ruptures professionnelles, familiales, etc. Donc des personnes qui ont déjà d'autres difficultés et chez qui l'arrêt du tabac, ça va être une difficulté de plus. Pour eux, il ne faut pas leur proposer d'arrêt du tabac parce qu'ils ont assez d'ennuis comme ça dans la vie, c'est les exclure, c'est-à-dire que ces personnes-là, on augmente du coup leur chance de mourir du tabac. C'est déjà dans ces catégories de population-là qu'on trouve le plus de mortalité liée au tabac, donc c'est une injustice et une exclusion. Donc ça veut dire qu'il faut au contraire augmenter les encouragements et faciliter le sevrage chez des populations qui sont fragilisées. Ça passe par quoi ? Ça passe par rendre plus facile pour eux les accès aux structures d'aide au sevrage comme nous, la consultation de tabacologie. Or, c'est des patients qui ont du mal à sortir de chez eux pour aller à l'hôpital. Donc il faudrait qu'on essaye d'aller à leur rencontre. Voilà. Et, ça, et aussi former les personnes qui sont directement en contact avec ces personnes en difficulté, par exemple les travailleurs sociaux, par exemple les infirmières de CEDAS, etc. Et puis, il faut aussi que les traitements du sevrage, qui ont une efficacité certaine, même si elle est limitée, soient plus facilement accessibles. Or, actuellement, vous savez que le tabac, c'est la seule addiction en France pour laquelle la Sécu ne prend pas en charge les traitements. Si vous êtes alcoolique, vous avez tous vos traitements pris en charge. Si vous êtes toxicomane, vous avez tous vos traitements pris en charge, y compris les hospitalisations, les cures, les post-cures, etc. Si vous êtes fumeur, vous avez droit à 50 euros par an, ce qui vous permet, dans le meilleur des cas, d'avoir un mois de traitement pris en charge, mais il n'est pas pris en charge. Vous allez d'abord acheter à la pharmacie, et ensuite, vous avez un remboursement. Moi, j'ai des gens qui ne sont pas capables d'avancer 50 euros pour un traitement d'arrêt. Ils vont acheter, ils vont prendre 20 euros par semaine de tabac à rouler. Moi, j'ai des patients qui recyclent des mégots. J'ai des patients qui taxent des clopes dans la rue pour se faire leur petit stock, etc. Moi, ces patients-là, ils ne peuvent pas avancer, ils peuvent pas avancer leur traitement. Donc il y a des incitations financières. Voilà. À ce prix-là, on pourrait faire qu'augmenter le prix du tabac soit beaucoup plus efficace. Mais c'est pas la direction actuelle pour l'instant.
Bienvenue dans la nouvelle école de Big Flow et Oli. Bienvenue dans la nouvelle école de Big Flow et Oli. Bienvenue dans la nouvelle école de Big Flow et Oli. Bienvenue dans la nouvelle école de Big Flow. Les M6 Sky, les M6 Style, quand je pars en freestyle, cash kick grave comme sur la East Side. Trisman et Rakai, Kayas la flicaille, on mène la zig ride sur Sky pour qu'ils se calment. Mais la jeunesse, les rails, du shit ou du Sky, des routes, des rails, des filles ou de la maille, défoncer toute la night. Ah, au milieu de tout ça, moi j'ai pris le mic. Ah, les débiles sont des guides, devine qui fait le strike. Le flow est dans la place, les crashs, des flammes, le son est fat, des watts, des cartes, des watts, éclatent des crânes. C'est le micmac, les MC quittent l'endroit. Repose le mic, mec, Biflow l'a pris avant toi. Les marages, la ravale, je balance des rafales. Je fais des ravages graves et des trapages sur mes tracks. Et je traque tous les gars qui bavent sur mon rap. Les attrape, leur fracasse, le crâne à coups de matraque. Pourquoi tu parles, moi, quand je rappe, je ne crains personne. Car dès que je prends le mic, je suis Michael Jackson. Tout le monde se demande, mais ce qui c'est dit, qui débite et les rimes graves. Des gimmicks, des lignes sales, tout l'équipe de débile se taille. J'ai des milliers de rimes, c'est mimi, ils m'imitent. Ils minimisent le mythe, puis je milite et les élimine. J'ai mis des mines, domine les mythes, ma mine est mille, les émis. Les MC sont mine, épinés, c'est unanime. Ok, moi je kiffe parce que je kiffe ça. Hasta la vista, tous les MC assistent à l'histoire. Avise-toi, on arrive, tu veux que je te dise quoi. Et tous les connards qui parlent d'Oli sont sur ma lista. Moi je kiffe comme un ouragan parce qu'on faisait du lourd avant. On prenait le mic, on faisait des claques et on faisait ça couramment. Ha. Les rappeurs ne pensent qu'à se taper. Ils parlent, ils clashent, mais ils oublient de rapper. Ok, mon frère c'est mon girl, tu peux l'appeler Dolly. Bienvenue dans la nouvelle école de Big Flow et Oli. Et je les entends qui rigolent tous ces MC alcooliques. Big Flow et son acolyte, ils sont plus clean que des catholiques. On vient crier vos tubes catholiques, brûlez vos tolis. Vous êtes molly, pas nous sous-estimer, on vous la trollie. Avoue que c'est comique comme un homme qui picole atomique. Je dégomme les connes, je donne ses promis. C'est Big Flow et Oli, dis-moi si t'as suivi. Je préfère avoir peu de vécu que m'inventer une vie. Le rap fait pitié, je sais pas ce que t'en penses. Si on est derrière toi, c'est qu'on a déjà un tour d'avance. Facile, c'est qu'on m'a commis d'office. Ah, ça sert du chromis, j'opprime. C'est Oli le kitsch, liquide, c'est pop deep. Depuis qu'on m'a remis le titre, j'm'obstine. Ovni de la ville au stylo, hostile. Aussi, artiste, clique vite et profite. Loin de ces égoïstes autistes, ton profil horrible. Arrête tes stories débiles au chromis, j't'ai gosi. J'ai vu tes clés pathétiques, ton rap stérile dérive, c'est comique. Y'a le fond, la forme, tous ces cons, j'assomme. Bon, d'accord, je jongle avec le son, c'est fort. Le monde donne même une leçon, c'est donc un comble en sorte. Et si quelqu'un rappe mieux que moi, mais dis-moi qu'on me la porte. J'm'applique et j'kick comme il est satique. Classique comme Nas, c'est le disque, il m'attique. Technique, bread beat, le rap est magique. Panique, les critiques gravitent, mais le public s'agite. Dans la lancée, je fais des clins de les yeux grands ouverts. Le festin va commencer, j'ai même pas mis les couverts. Faut que je calme mon flow de malade, proto t'es ouvert. Je mérite une médaille, je me balade comme un Vancouver. C'est que le début, kiffe la petite démo. Tous les requins veulent me voir, ils veulent m'avoir. Nemo, tu grattes, rageux, t'as du mal à en voir le bout. On a fait des premières parties à des MC plus mauvais que nous. La jouée gangster, cette gangrène je l'enterre. Et quand même elle s'amène, je l'enferme à long terme. Mais je l'interne et j'éteins sa lanterne. C'est interne, c'est l'enfer, un expert. Rendez-vous au concert. J'en mets des connes, ravez l'école. Mes potos s'étonnent, j't'attonne, gravez les gommes. Depuis l'époque de la cour de l'école, efficace et les fonds, j'tabasse les autres. Je tape le top, dédicace le trône et efface les gars qui se prennent pour les boss.
Ah ouais, en fait ça kick chez les gosses.
Précis comme Bron James, ici j'suis Bron James. Indécis, t'apprécies, mais si j'suis le génie, le Bron James. J'enchaîne les festivals, festivals, on dit que j'ai tout pété. Rappelle-moi mon âge, à mon âge, poto où t'étais. Homme des tests, mais j'pèse trop, illico presto. J'te dis texto, j'm'entête quand on teste trop. T'en fesses la pesto, j'encaisse, j'tape du resto. De Christo Christo, j'rajoute un zeste pesto. En studio, j'écoute plus la radio.
radio ces temps-ci. Remballe ta clope, ta drogue, je fume que du MC. Regarde les scénarios, ils ne savent que crâner. Le rap c'était mieux avant, avant j'étais pas né.
Bienvenue dans la nouvelle école de Big Flow et Oli. Bienvenue dans la nouvelle école de Big Flow et Oli. Bienvenue dans la nouvelle. Bienvenue dans la nouvelle. Bienvenue dans la nouvelle école de.
C'était Big Flow et Oli que vous avez pu voir cette année au Bar en Transe avec le morceau L'Héritage. On retrouve le docteur de Bononville, médecin tabacologue au CHU de Rennes. Après avoir abordé le sujet de la cigarette électronique, évoquons maintenant le versant plus politique de la lutte contre le tabac. Quelles mesures devrait-on mettre en place pour une lutte plus efficace ?
Alors, en décembre l'année dernière, il y a un rapport de la Cour des comptes qui est sorti sur ça et qui a montré que c'était une politique qui n'était pas du tout cohérente et pas du tout structurée. C'est-à-dire qu'on dépensait beaucoup plus de sous pour la prévention des accidents de la route qui font 4000 morts par an que pour la prévention du tabagisme qui fait 73 000 morts par an. Voilà. Donc il y a une insuffisance de moyens mis en œuvre. Si on mettait vraiment déjà des moyens mis en œuvre, on arriverait par exemple tout simplement à financer les traitements du sevrage. Ensuite, on arriverait à faire des recherches pour montrer vraiment qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas là-dedans. Peut-être des recherches pour voir pourquoi telle personne devient si facilement dépendante au tabac et pourquoi pas une autre personne. Voilà, donc ça c'est les choses qu'il faudrait faire. D'autres choses qu'il faudrait faire aussi, c'est des recherches sur la cigarette électronique, parce que là on est dans une période où on se dit ce truc là c'est peut-être révolutionnaire mais peut-être pas. Donc qu'on n'ait pas froid aux yeux et que même si c'est un produit qui est un produit commercial pour l'instant qui n'est pas un médicament, il faut faire des recherches dessus, des recherches indépendantes, c'est-à-dire qui ne soient pas financées par les marchands de cigarettes électroniques mais qui soient financé par l'État ou par un organisme indépendant, éventuellement payé par l'État. Ça, c'est des choses qu'il faut faire aussi. Et puis, il faut faire un changement culturel par rapport au positionnement du tabac, et notamment chez les populations défavorisées. Il ne faut plus que le tabac ait cette image positive d'objets qui sert à entrer en contact avec les gens. Ça ne va pas, bah bien, on va se fumer une clope et tout ira mieux. Voilà, et ça, c'est la chose sur laquelle c'est le plus compliqué en fait, le changement culturel, parce qu'il y a déjà des campagnes qui vont dans ce sens, et il y en a déjà eu, parce que par exemple, il y a simplement 30 ans, voir quelqu'un fumer dans un hall d'hôpital, personne s'offusquait. Maintenant, ça paraît complètement incongru. Voir quelqu'un fumer en première classe dans un train, maintenant, ça passe plus du tout. Donc il y a déjà un changement culturel qui est en route, mais en France, on est en retard par rapport à d'autres pays européens. Donc voilà, il ne faut pas. Il ne faut pas se dégonfler devant la pression des lobbies cigarettiers.
Justement, sur ces changements culturels, on parlait il y a quelques temps de rendre neutre, on va dire, les paquets de cigarettes, pour éviter notamment les jeunes d'être tentés d'acheter des paquets de cigarettes. Qu'en est-il et à votre avis, serait-ce efficace ?
Oui, parce que le tabac, c'est un produit de consommation. Alors, le paquet neutre, c'est expérimenté en Australie. Ça fait déjà quelques mois, donc ce qui va être important, c'est de voir un peu comment ça se passe en Australie. Quand on voit l'opposition des cigarettiers au paquet neutre, on se dit que probablement que c'est une mesure potentiellement efficace, sinon ils ne seraient pas opposés. Hein. Le paquet neutre, ça empêche aussi tout ce qui peut être mensonger dans l'information produite sur un paquet de tabac. Ce qui peut être mensonger, c'est les codes couleurs, par exemple. Vous avez, rouge, c'est plein pot de nicotine, et doré, c'est presque rien, et c'est léger, mais il n'y a plus droit de marquer light. Et donc, mais les gens continuent à s'illusionner sur le fait que s'ils prennent le paquet doré, ils risquent moins que s'ils prennent le paquet rouge, ce qui est totalement faux, puisqu'en fait, c'est simplement la manière de fumer qui va faire la toxicité du tabac. Et ça, c'est très personnel, très individuel, et ça ne dépend pas des cigarettes qu'on fume. Il y a autre chose aussi, c'est éventuellement toute la symbolique qu'il y a sur un paquet de cigarettes qui va faire que le fumeur va s'identifier soit à une nana sexy, soit à un mec sauvage et beau, soit à une personne qui vit dans le luxe, etc. À l'intérieur, c'est toujours le même produit qui rend dépendant et qui tue à petit feu. Mais le fumeur, quand il va l'acheter, il ne va pas penser ça. Il va penser, suivant ce qu'il attend, à un symbole de liberté, un symbole d'attirance, un symbole de rebelle, etc. Et donc le paquet neutre a l'avantage d'effacer tous ces symboles-là et d'effacer toutes les représentations et l'image que le fumeur fantasme lorsqu'il va acheter son paquet de cigarettes. Donc ouais, c'est intéressant.
N'est-il pas un problème de lobbying qui freinerait la mise en place de mesures à l'encontre du tabac ?
Si, certainement. L'industrie cigarettière, elle a un lobbying puissant à la fois au niveau national et au niveau européen. Alors après, moi, c'est plus trop mon domaine, parce que moi, je suis juste un petit tabacologue de ville, mais c'est quand on voit qu'il y a un rapport extrêmement travaillé qui est sorti au mois de décembre et que depuis, il n'y a pas eu grand-chose de fait, à part, on se dit qu'on va peut-être rembourser aussi un peu plus que 50 euros pour les adolescents chez qui on ne sait pas très bien si les substituts nicotiniques, ça marche ou pas. Et en tout cas, ce n'est pas, probablement pas la meilleure technique pour les ados. Et chez les femmes enceintes, on a déjà passé à 150 euros. Et en fait, chez les femmes enceintes, le problème est beaucoup plus complexe que ça. Et donc ça, c'est des mesurettes. Et quand on voit qu'il n'y a que des mesurettes qui sortent, enfin, nous, on est même scandalisés. Hein. On pensait que le changement, c'était maintenant. Bah, pour le tabac, ce n'est pas top, quoi, en fait. Voilà.
Et si j'ai envie d'arrêter de fumer, qui dois-je contacter ?
Alors, soit vous allez contacter votre buraliste, mais ce n'est pas une bonne solution, je vous déconseille. Je crois que le premier recours, c'est quand même les potes qui ont arrêté de fumer ou les potes qui ne fument pas. Il ne faut pas d'abord médicaliser son envie d'arrêter de fumer, il faut d'abord discuter avec d'autres personnes. Et ce qu'on voit, c'est que les gens qui commencent à s'arrêter de fumer, ils vont progressivement évoluer à un milieu où tous les potes autour commencent à s'arrêter de fumer aussi. Donc c'est peut-être le premier niveau, c'est celui-là, avant d'aller voir un docteur et de médicaliser. Ensuite, si vous pensez que vous êtes plus vulnérable, par exemple, si vous vous sentez fragile psychologiquement, si vous êtes dans une situation de vie compliquée, etc., oui, là, ça peut être intéressant de faire appel à quelqu'un qui est vraiment plus spécialisé dans l'aide à l'arrêt du tabac. Si c'est par téléphone, vous pouvez appeler Tabac Info Service au 39 89. C'est des tabacologues formés. Donc le premier niveau d'intervention, c'est quelqu'un qui est un téléconseiller qui va vous poser 2-3 questions et ensuite il va vous proposer un rendez-vous avec un tabacologue et on peut faire vraiment un suivi tabacologique par téléphone. Si vous préférez avoir vraiment une rencontre avec quelqu'un, à ce moment-là, ça peut être votre pharmacien si vous avez un bon feeling avec lui, ça peut être votre médecin généraliste, pareil, et puis ça peut être aussi un tabacologue ou un addictologue. Donc tabacologue sur la région rennaise, il y a trois endroits. Le premier, c'est à la fac, donc il faut se mettre en rapport avec le service de santé des étudiants. Et là, il y a des médecins qui sont là pour les étudiants et qui ont une formation en tabacologie. Donc, il y a des vraies consultations de tabacologie à la fac spéciales pour les étudiants. Autrement, il y en a au CHU de Rennes, qui sont des consultations gratuites ou très peu chères. Hein. Des consultations à la clinique Saint-Laurent, c'est aussi des consultations de tabacologie. Et autrement, il y a des consultations d'addictologie. Ça, c'est si vous pensez que vous n'avez pas que un problème de tabac. Si vous pensez que vous êtes que vous avez un problème avec une autre addiction, par exemple l'alcool, par exemple le cannabis, et à ce moment-là, on peut faire appel au XAPA. C'est centre de soins en addictologie. Il y en a un qui est plus sur l'alcool et qui est rue Saint-Molène, en plein centre-ville à Rennes, et l'autre qui est plus sur les toxicomanies et qui est à l'Envol. Voilà. Donc, à Rennes, je dirais que c'est principalement, si on a une envie de fumer ou une envie d'arrêter de fumer et qu'on craque, c'est comme ça qu'on peut faire.
Oui, comment se compose l'unité de tabacologie au CHU de Rennes ?
Quand vous venez en tabacologie au CHU de Rennes, vous êtes pris en charge par une équipe. Voilà. Donc, dans l'équipe, il y a des médecins, des infirmières et une psychologue et une diététicienne. Voilà. Donc, les personnes qui viennent ici ont le choix, en fait, des armes, si on peut dire. Soit ils désirent être suivis par une seule personne, et ils vont rencontrer toujours la même personne au cours de leur suivi. Soit ils veulent, à un moment donné, rencontrer notre psychologue ou rencontrer notre diététicienne pour plein de raisons. Et à ce moment-là, ils pourront avoir un suivi avec plusieurs personnes. Il y a des personnes qui voient que le médecin, d'autres personnes qui voient que les infirmières, et d'autres personnes qui voient tout le monde. Le suivi, il est à la carte, c'est-à-dire qu'il y a des gens qu'on voit toutes les semaines et des gens qu'on voit tous les 2 mois. Voilà. Voilà, c'est la moyenne de suivi, elle est de 6 mois. Il y a des gens qu'on va voir qu'une fois. Il y a des gens qu'on va suivre pendant des mois, voire des années, parce que quand on arrête de fumer, il faut se dire que la plupart du temps, on va rechuter. C'est pas un échec, c'est que c'est normal. Ça fait partie du parcours de quelqu'un qui s'arrête de fumer, de s'y reprendre à plusieurs fois. Quand on regarde les gens qui ont définitivement arrêté de fumer, on s'aperçoit qu'en moyenne, ils ont 4-5 tentatives avant la bonne. Donc, faut pas que ça soit une source de découragement. C'est-à-dire que chaque fois qu'on arrête de fumer, on enregistre plein d'informations, on fait une expérience. Et le tabacologue, quand il vous voit en consultation, il vous aide à vous servir de cette expérience pour construire la prochaine.
Cette double émission consacrée au tabac touche à sa fin. Ces émissions ont été réalisées dans le but de vous donner un maximum d'informations sur les conséquences de la consommation du tabac et des moyens existants pour arrêter de fumer. Vous pouvez retrouver en tout cas d'autres informations utiles ainsi que les podcasts des émissions sur radiocampusrennes.fr. Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes et on se revoit en 2014.